Tu peux éteindre la lumière. Tu peux danser tant que tu veux et finir en poussière. Je retiendrai tant que je peux tes mains dans l'atmosphère. L'odeur des joints tous les matins me fout en l'air. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux toujours me plaire. Monter le son tant que tu peux et jamais me faire taire. Je l'écouterai tant que je peux.
L'odeur des joints, Holidays, qui seront sur la scène Hydro-Québec à 20h.
Ah, les gens sont de bonne humeur à Canalem, hein? Salut Marc Britton, le directeur des émissions qui est entré en régie tout sourire en sifflotant. Alors, ça nous rend de bonne humeur. Je parle maintenant de culture, le show de Marjo qui était de bonne humeur et en forme, une façon de parler parce qu'elle a une entorse, mais ça ne l'a pas empêchée de mettre le feu sur la scène, une façon de parler. Donc, un show en demi-teinte, ça c'est le titre de l'article qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, Samuel Pradier. À quelques semaines de son 65e anniversaire, Marjo défie la pluie au Franco. La foule des grands jours n'était pas vraiment au rendez-vous hier soir pour le spectacle de Marjo sur la grande scène de la place des festivals dans le cadre des Franco de Montréal. Après un rendez-vous raté à cause d'une vilaine blessure il y a une dizaine d'années, c'est la pluie qui empêchait les grandes retrouvailles entre le public et Marjo. Ils étaient un peu plus d'un millier à avoir bravé les menaces d'orage qui ont épargné le centre de Montréal pour communier avec la rockeuse. La chanteuse qui aura 65 ans, donc en août prochain, était visiblement en forme. C'est avec le classique de Corbeau illégal qu'elle a ouvert la soirée. Entourée de quatre musiciens efficaces, elle a enchaîné des titres de son répertoire solo. et de celui de Corbeau, groupe dont elle a fait partie de 1978 à 1984. Si Marjo est physiquement en super forme, la voix n'a plus le même tonus ni la même puissance. Pour les premières chansons, elle avait du mal à atteindre certaines notes, mais sa voix s'est réchauffée au fur et à mesure de la soirée et s'est nettement améliorée. Néanmoins, les années d'expérience font que Marjo arrive à livrer un show convaincant en s'appuyant sur des chansons que tout le monde connaît comme « Si c'est ça la vie », « Chat sauvage », »,« je sais », une chanson qui a fait partie de vos vies, de celles de vos mères et de vos pères, de vos chums, de tout le monde finalement, a-t-elle lancé au public. Le public semblait ravi de retrouver son icône féminine du rock, agitant les bras, sautant en l'air ou reprenant les refrains de certaines chansons avec elle. « Je ne pensais jamais faire le tour du Québec pour chanter autant que je l'ai fait. Avec la belle gang de Corbeau, on peut dire que j'en ai fait du millage », a-t-elle avoué avant de se lancer dans un medley de chansons du groupe comprenant notamment « Demain »,« Suite » ou encore « Marche ». Alors qu'elle attaquait le refrain de la chanson « Ailleurs », Éric Lapointe s'est pointé sur scène par surprise pour l'accompagner, un beau moment que le public a beaucoup apprécié. La chanteuse avait réservé ses plus gros succès comme « Amoureuse »,« Provocante » et « Trop d'amour » pour la fin de sa prestation. Elle avait toutefois réservé une dernière surprise. Pour le rappel, Justin, le fils de Jerry Boulet, est venu chanter « Les yeux du cœur » avec elle, histoire de finir la soirée en beauté. Johnny Hallyday aurait eu 75 ans vendredi, une journée qui sera chargée en émotions 6 mois après sa disparition pour sa famille en pleine bataille judiciaire comme pour ses fans qui vont communier en attendant l'album posthume. À Paris, des milliers d'admirateurs sont attendus dans et à l'extérieur de la Madeleine pour une messe anniversaire qui débutera à 11h vendredi. Les funérailles de l'idole des jeunes morts le 5 décembre avaient été célébrées 4 jours plus tard dans cette église, devenue un lieu de mémoire pour ses admirateurs, au point que le 9 de chaque mois, la messe de 12h30 est célébrée à l'intention du chanteur, devant une assistance de plusieurs centaines de personnes. La messe a donc été déplacée ce mois-ci au 15 pour coïncider avec le 75e anniversaire de la naissance de Johnny. Pendant la cérémonie, résonneront des cantiques aux airs du pénitencier, « Retiens la nuit », ou encore « Que je t'aime ». Cité Mémoire transposée à Paris, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Les concepteurs québécois de Cité Mémoire, cette allégorie historique en plusieurs tableaux projetés dans le Vieux-Montréal, transportent leur créativité et leur savoir-faire à Paris. Depuis quelques mois, le concepteur Michel Lemieux et le producteur Martin Laviolette travaillent avec le romancier Alexandre Jardin à élaborer une série de tableaux qui seront offerts au public parisien à compter de 2021. Avec quelques 150 œuvres d'art, l'exposition Effervescence clôture cet été les célébrations du 25e anniversaire de la création de l'organisme Les Impatients qui vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale. Elle présente des peintures, dessins, gravures et sculptures qui font découvrir la diversité d'expression de ces artistes en herbe qui se croisent aux impatients. Avec quelques curiosités, telles une Francine Grimaldi sculptée sur un pied de tomate et un Carey Price en papier mâché. Effervescence aux impatients, c'est à voir au 100 rue Sherbrooke-Ouest à Montréal jusqu'en septembre. Les 20 ans de Franco de Catherine Durand, une carrière dans la chanson « Éternel recommencement », c'est la question que pose Sylvain Cormier à Catherine Durand. Un peu oui, quand on consulte le dépliant de la programmation des Franco et que l'on y trouve une Catherine Durand et une Catherine Leduc. Dans la série extérieure, les découvertes au même titre que Dave Shows et Lou-Adrienne Cassidy. Relativisons, une programmation est un tas de cases à remplir et ses appellations ne sont pas trop contrôlées. L'important pour Catherine Durand, c'est qu'elle se produit de nouveau au Franco. Alors qu'elle s'apprête à célébrer ses 20 ans de disques et de spectacles, ça compte. Les Franco ont toujours été très importantes pour moi. Elles ont été là dès mes débuts. Ça a commencé fort avec le Spectrum. J'ai ensuite eu la grosse scène de l'époque, un vendredi soir en 2001, c'était noir de monde. J'ai aussi été invitée dans quelques grands spectacles à la Place des Arts, hommage à Fiori, hommage à Claude Léveillé, carte blanche à René Martel. J'ai fait Toutes les filles et un spectacle avec Michel Rivard au cabaret Juste pour rire. Certaines années, j'ai été dans trois shows différents dans les mêmes Franco. Lieu variable, industrie changeante, mais présence constante. C'est l'essentiel. C'est vrai que les scènes avec les années sont devenues plus petites, plus intimes, mais je continue d'y avoir ma place. Le spectacle de jeudi, présenté sans chichi à l'angle de Jeanne Mance et de Maisonneuve dès 18h, donc aujourd'hui, est une fin d'étape. Catherine achève ces jours-ci le mixage d'un album anniversaire où elle revisite ses chansons majeures à paraître cet automne. Je présente mon spectacle de « La pluie entre nous » que j'ai donné pendant la dernière tournée. Ce sera d'ailleurs la dernière fois que je le présenterai à Montréal. Appel du genou au programmateur, on imagine tout naturellement une fête d'auteurs-compositeurs et d'auteurs-compositrices autour d'elle. Et si c'était les autres qui chantaient du Catherine Durand, tiens, ce serait évidemment un grand honneur, vraiment. Comme je suis en ce moment en mode relecture, je serais bien curieuse d'entendre d'autres artistes que j'aime et que j'estime s'approprier mes chansons et les livrer différemment. Une chanson peut avoir tant de vies différentes, tant de couleurs différentes. C'est ce qui fait qu'elle reste vivante. Je me souhaite très fort un spectacle hommage au Franco 2019. Ce serait un beau vent dans le dos. À 18h, donc, Catherine Durand qui se produit sur la scène Hydro-Québec, angle de Maisonneuve et Jeanne Mance. On l'écoute.
Comme un coureur qui tombe et qui se relève et qui repart encore pour quelques kilomètres. Comme les avions qui s'envolent sans arrêt vers l'avant à 500 pieds à la seconde. Le temps presse toujours un peu plus fort, un peu plus vite. On ne se rend compte de rien, puis on arrive toujours au bout du chemin. Comme l'air d'aller, l'art de se placer les pieds au bon moment avant de vouloir s'en aller. Comme il est porté avant même d'avoir décollé pour un voyage pour lequel on n'a pas payé. Le temps presse toujours un peu plus fort, un peu plus. On ne se rend compte de rien, puis on arrive toujours au bout du chemin. Thank you.
Le temps presse, Catherine Durand, et si vous avez aimé, évidemment, comme nous lisait Hélène, elle sera sur la scène Hydro-Québec ce soir à 18h.
Chose promise, chose due. Alors, je vous lis la chronique de Marc Cassivi. Une très bonne nouvelle. Coupe du monde de soccer. C'est d'abord une très bonne nouvelle pour les amateurs de soccer montréalais. Ils sont de plus en plus nombreux. Pour la première fois, le Canada accueillera des matchs de la Coupe du monde en 2026, conjointement avec le Mexique et les États-Unis. Et il y a fort à parier que 3 matchs seront présentés ici même au Stade olympique sur du gazon naturel et on ose l'espérer sous le soleil. C'est ensuite une très bonne nouvelle pour le développement des jeunes joueurs de soccer au pays. Ils sont de plus en plus nombreux aussi. La Fédération de soccer du Québec compte notamment 2 fois plus de joueurs que la Fédération de hockey sur glace du Québec. L'impact, sans mauvais jeu de mots, sera encore plus important au Canada qu'au Mexique et aux États-Unis, des habitués du Mondial qui ont déjà accueilli la compétition. En 1970 et en 1986 au Mexique, en 1994 aux États-Unis. Des esprits chagrins, dont mon collègue Patrick Lagacé, ancien gardien de but émérite de Laval aux Jeux du Québec, laissait entendre hier qu'il s'agissait de la seule façon pour le Canada de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde. Mauvaise langue, disons que le rêve que caressent bien des petits gars de chez nous de participer au plus prestigieux tournoi de la planète deviendra un peu plus réalisable en 2026. Car s'il n'est pas garanti que les 3 pays hôtes seront qualifiés d'office pour le Mondial de 2026, la FIFA doit en discuter au cours des prochaines semaines. On y trouvera pour la première fois 48 nations, dont 6 affiliées à la CONCACAF, la confédération qui chapeaute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. C'est donc dire que les chances de voir Samuel Piette, 23 ans et déjà un pilier de l'équipe nationale, participer à une Coupe du monde nord-américaine sont bonnes. Meilleures du moins qu'au Qatar en 2020, avec 32 équipes qualifiées, dont seulement 3 ou 4 en fonction des résultats des barrages de la CONCACAF. Il y a belle lurette que le Canada s'est qualifié pour une Coupe du monde. C'était au Mexique en 1986. J'avais 13 ans. Je terminais ma première année du secondaire et le Canadien de Montréal venait de remporter sa 23e Coupe Stanley. J'étais assez naïf pour croire que le scénario allait se répéter souvent de mon vivant. J'ai 45 ans, le Canadien est désespérément médiocre depuis un quart de siècle et le Canada ne s'est jamais requalifié pour le Mondial. En 1986, non seulement le Canada n'avait pas remporté un seul match de première ronde sur 3, mais il n'avait pas marqué le moindre but. Non, le rouge et blanc, actuellement classé 79e au monde, n'est pas une superpuissance du soccer mondial. Mais si une nation nordique comme l'Islande, un pays de seulement 335 000 habitants classé 112e au monde par la FIFA en 2010, a pu se qualifier pour le mondial russe après avoir disputé le quart de finale de l'Euro 2016, le Canada, 117e au classement de la FIFA en 2016, peut au moins se permettre de rêver. Un rappel au passage pour le collègue Lagacé. Il y a quasiment 100 000 habitants de plus dans son Laval natal qu'en Islande. Il n'est pas interdit non plus d'espérer une qualification canadienne dès 2022. La jeune sélection nationale a montré de très belles qualités l'été dernier lors de son parcours en Gold Cup, notre championnat continental, aux États-Unis. Samuel Piette a été aussi dominant dans la récupération qu'avec l'Impact et le jeune Alfonso Davis, des Whitecaps de Vancouver, a même été sacré meilleur buteur de la compétition à seulement 16 ans. Il y a de l'espoir, d'autant plus que les Canucks se sont dirigés depuis janvier par John Herdman, qui a mené l'équipe féminine à 2 médailles de bronze olympiques consécutives. Avec ou sans l'équipe du Canada, les chances de voir certaines des meilleures équipes du monde à Montréal dans 8 ans sont excellentes. Au total, 16 villes vont accueillir le Mondial en 2026, dont 10 aux États-Unis, qui présentera 60 des 80 matchs, dont tous ceux à compter des quarts de finale. Ce qui laisse au Mexique et au Canada, qui présenteront 10 matchs chacun, 6 villes hôtesses. Or, il y a 3 villes candidates au Mexique, Mexico, Guadalajara et Monterrey. Et il y en a autant au Canada, Edmonton, Toronto et Montréal. J'ai arrêté les mathématiques après ma première année de cégep, mais si mes calculs sont bons, au moins 3 matchs devraient être disputés au Stade olympique de Montréal, qui a déjà accueilli des matchs de la Coupe du monde féminine en 2015, ainsi que de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2007, mettant en vedette plusieurs joueurs qui disputeront le mondial en Russie au cours des prochaines semaines. La décision finale de la FIFA au sujet des villes hôtesses sera connue en 2021. On s'est beaucoup targué ces derniers jours du rayonnement international de Montréal grâce au Grand Prix de Formule 1. La Coupe du monde de soccer est de loin l'événement sportif le plus médiatisé de la planète. Quelque 3,2 milliards de téléspectateurs en audience cumulée ont regardé la Coupe du monde de 2014 au Brésil, dont 1 milliard seulement pour la finale Argentine-Allemagne. En comparaison, les Jeux olympiques d'été ont une audience cumulée d'environ 2 milliards, le Super Bowl de 160 millions et le Grand Prix de Montréal de 90 millions de téléspectateurs. Je disais, c'est une très bonne nouvelle. Voilà pour la chronique de Marc Cassivi. Maison olympique canadienne, enfin l'ouverture. 3 ans après son inauguration en grande pompe le 9 juillet 2015, la Maison olympique canadienne ouvrira enfin ses portes au public à compter du 20 juin. On présentera l'exposition interactive L'expérience olympique canadienne. On avait d'abord annoncé une ouverture en 2015, puis en 2016. Les portes de la maison, situées au 500 boulevard René-Lévesque-Ouest à Montréal, sont demeurées closes à ce jour. Le projet est le dernier legs de l'ancien président Marcel Aubut, forcé de démissionner en octobre 2015 à la suite d'allégations de harcèlement sexuel. Ce scandale ne serait pas étranger à ce long retard. La maison, dont le projet initial a été revu, représente un investissement de 12 millions, dont 3,5 millions de Québec et 3 millions d'Ottawa, ainsi que de 2 millions de la Ville de Montréal. Le privé contribue pour 3,5 millions. C'est dans le Journal de Montréal. Il survit grâce à un traitement canadien. Le jeune Français de 15 ans a des os invisibles. Une maladie orpheline, des os invisibles et une chance de survie quasi nulle pour Julien Ferrer à sa naissance. Pourtant, 15 ans plus tard, ce Français est plein de vie grâce à un traitement inédit testé au Canada à 7000 km de chez lui. Julien est né en 2002 dans le sud de la France. C'était un petit bébé. Il n'était pas hors norme, mais il ne grandissait pas bien, mangeait peu et il pleurait beaucoup, se rappelle sa mère, Mélanie Ferrer. Une première série de radiographies montre que les os du nourrisson sont translucides. Les médecins sont dubitatifs. Désemparés, John et Mélanie Ferrer rencontrent des spécialistes. La nouvelle arrive quelques jours plus tard. On a reçu un courrier qui nous expliquait que notre bébé de 5 mois avait une maladie génétique qui s'appelait l'hypophosphatasie. Point, raconte la mère à l'agence France-Presse. Il est alors l'un des 8 cas recensés en France. Le couple cherche de l'information sur le web et découvre que si la maladie se déclare avant les 18 mois de l'enfant, généralement il ne survit pas. Mais le petit Julien survit malgré les handicaps liés à cette maladie orpheline qui entrave les développements osseux. les parents contactent des personnes atteintes d'hypophosphatasie, HPP, pour créer une association soutenant la recherche sur cette maladie, deviennent experts en collecte de fonds, participent même à l'organisation du premier symposium international sur HPP en 2008. C'est un tournant. Des chercheurs canadiens leur annoncent lors de ce symposium le lancement d'une étude clinique. Après des semaines d'attente, le couple apprend que Julien figure sur la liste des cas prioritaires de l'étude qui sera menée à Winnipeg, au Manitoba. La famille Ferrer s'envole quelques jours avant Noël 2009. C'est au Manitoba que les cas d'hypophosphatasie sont les plus fréquents. Tous, tout pays confondu, en raison de la colonisation européenne, relève la docteure Cheryl Greenberg, la généticienne de l'Université du Manitoba qui dirige l'étude. Julien reçoit le 25 janvier 2010 sa première piqûre. À Pâques, il marchait, se rappelle sa maman, les yeux encore écarquillés par ce souvenir des premiers pas. Son fils avait 7 ans. En 2012, la famille émigre au Canada et à 15 ans maintenant, Julien va à l'école normalement et rêve d'un avenir dans le théâtre ou les jeux vidéo. Alors, il y a une photo de Julien sur sa trottinette dans une rue de Winnipeg au Canada en mai dernier. Et pour terminer, le Cirque du Soleil ambitionne d'ouvrir des centres de divertissement familial dans les centres commerciaux à travers le monde. Le premier Creative sera inauguré dans la région de Toronto en septembre 2019 dans une propriété d'Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt. Le centre proposera des activités acrobatiques et artistiques inspirées du cirque, dont le saut à l'élastique, le trampoline, la jonglerie et la danse, le concept novateur qui s'installera dans des locaux d'environ 24 000 pieds carrés, s'inscrit parfaitement dans la tendance mondiale d'évolution du commerce de détail, alors que les développeurs cherchent de plus en plus à offrir des expériences de divertissement, fait valoir le Cirque du Soleil. C'est tout pour le quotidien des quotidiens de ce 14 juin que je vous souhaite agréable. N'oubliez pas votre parapluie parce qu'il y a de la pluie dans l'air quand même. Mais ça va s'estomper. Demain, on annonce beau. Un grand merci, Mathieu Tessier, à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis, bonne journée à vous. À demain.